MIPIM 2025 en partenariat avec Prestataire sur Radio Immo.
Eh bien, rebonjour les amis. Voilà, c'est notre troisième journée déjà. Voilà, nous sommes le 13 mars 2025, édition du MIPIM. Alors, on va pas bouder notre plaisir, il fait très beau. Nous sommes sur le golfe, voilà, la mer est belle. On est ravis d'être avec vous au MIPIM avec beaucoup, beaucoup d'activités. On va démarrer cette matinée, si vous voulez bien. On va parler justement de la certification. C'est un vrai sujet, à la fois pour les investisseurs, mais effectivement pour un marché qui est clairement sous tension aujourd'hui, avec peut-être des cadres qui sont rebattus, avec des nouveaux relais de croissance. Était l'idée que nous avions avec nos partenaires de prestataires, c'était d'essayer de voir comment on peut analyser ce marché avec différents protagonistes qui nous partageront leur point de vue. Bonjour Karine Thomas.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien Sylvain.
Voilà, directrice générale de prestataires certification.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. Voilà, on ne le présente plus, il est habitué des plateaux de Radio Immo. D'ailleurs, on va lui refaire un rond de serviette gravé à son nom. Voilà, c'est notre ami David Chouraki qui est sur le plateau. Bonjour David.
Bonjour.
Directeur général adjoint pour le Crédit Agricole Immobilier. Merci David d'être avec nous parce que c'est un sujet extrêmement important et on aimerait beaucoup avoir votre analyse également. John Baltin est avec nous. Bonjour John.
Bonjour.
Alors vous êtes Chief Marketing Officer, vous êtes en fait directeur marketing pour GSE. Vous êtes un contractant général, vous nous présenterez votre entreprise tout à l'heure. Bonjour Céline Granou.
Bonjour Sylvain.
Voilà, vous êtes responsable développement national éco-construction, assistance commerciale et technique à l'obtention des labels et certifications pour la PAV.
Oui, c'est bien. Voilà. Long, mais on s'en
voilà. Alors il faut prendre 3 minutes pour lire la carte de visite. Voilà, tout simplement. Ou alors on la prend en photo. Donc voilà, je suis ravi que vous soyez avec nous parce qu'effectivement, vous avez un rôle dans le paysage immobilier français et de la construction qui est déterminant. On connaît tous la PAM, hein, on ne présente plus la PAM, on se présentera chacun pour recontextualiser notre idée. Comment le marché, qui est sous tension encore une fois, peut se renouveler avec ce que j'appelle moi les nouveaux relais de croissance. Parfois, la certification, les processus de certification sur des assets dont on a besoin, parce qu'effectivement c'est créateur de valeur, apparaissent parfois comme des contraintes. Non, ça peut être des investissements, une nouvelle donne pour le marché. En tout cas, comment on peut à la fois adapter la réglementation, dont on peut dire que parfois elle est dotée d'une inflation normative très forte, et bien comment finalement, non pas la contourner, mais y faire face, l'adapter, pour en faire finalement des enjeux à la fois de créateurs de valeur, mais aussi de services pour la destination des immeubles qui sont aujourd'hui travaillés. Voilà un peu le contexte de notre émission. John Baltet, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu plus. Vous êtes un contractant général, GSE. En quelques mots, c'est qui, c'est quoi ?
Alors, GSE, donc effectivement, contractant général, nous sommes donc société française implantée là depuis presque 50 ans. On construit à peu près 1 million de mètres carrés chaque année, à peu près 70 projets, surtout dans la logistique, le tertiaire et l'industrie. On compte à peu près 650 personnes avec un chiffre près de 900 millions d'euros.
Alors, vous êtes vraiment contractant général, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un constructeur. Vous mettez en place les bâtiments. Qui sont vos clients ? Des promoteurs ?
Alors, nos clients sont les promoteurs, investisseurs, développeurs, mais également aussi des utilisateurs, parfois dans certains cas.
Alors, vous avez choisi délibérément de ne pas aller sur des classes d'actifs résidentielles ?
Non, nous sommes vraiment sur la partie donc, commerce, en fait, B2B.
Merci. Et donc forcément, quand on parle de réglementation et de certification, ça vous parle évidemment.
Absolument. Aujourd'hui, à peu près 70% de nos projets sont certifiés. Et dont sur ces 70%, on a à peu près la moitié qui ont plus d'un label, en fait. Donc c'est quelque chose de très recherché par surtout les investisseurs, promoteurs, développeurs, puisqu'ils voient un peu plus long terme.
Est-ce que ça veut dire que vous ne pourriez pas prendre des marchés sans avoir l'axe label dans le cadre de votre activité ? On est d'accord ?
Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la façon dont on voit ça, c'est un must-have. C'est plus vraiment un choix de si je le fais ou je le fais pas.
Ah oui, carrément.
Absolument.
Oui. Ah oui.
Et donc, et d'ailleurs, il y a même certains qui vont avoir plusieurs labels, un BRIM, un LEED, parce qu'ils savent que bon, ils vont un mélange de différents investisseurs de différentes géographies. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a 30% qui ne font pas. Alors, qui sont ces 30%?
Oui, mais c'est qui? Alors, c'est qui?
Alors, c'est les PME ou c'est des industriels ou des utilisateurs qui ne voient pas forcément l'utilité.
Ou des utilisateurs qui sont propriétaires de leur propre...
Voilà, tout à fait.
Et qui se disent... Hein, voilà. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut croire... Est-ce qu'il y a une obligation légale? Est-ce qu'il y a une... Non.
Non.
Finalement.
Non.
Voilà, donc... Et pourtant, vous certifiez l'ensemble de vos chantiers.
Tout à fait.
Voilà. Donc, c'est intéressant de voir comment vous avez adapté, finalement, cette règle comme étant une normalité, puisque, vous le savez, vous ne pourriez pas, finalement, prendre, que ce soit sur des appels à manifestation d'intérêt, des appels d'offres ou autres, avoir vos clients investisseurs, ou voire même, in fine, utilisateurs, sur vos constructions.
Disons qu'il y a un parti qui, bien sûr, le côté investisseur et la valorisation de mon actif dans 5 ans ou dans 10 ans, mais après, il y a aussi la partie performance énergétique. Souvent, ce que nous, on voit, c'est que si quelqu'un va se décider de prendre, par exemple, des pompes à chaleur, je vais avoir un retour sur investissement peut-être dans 5 ans. Et ah oui, lorsqu'on parle, le moment qu'on parle, c'est très intéressant, le moment qu'on parle de gains de performance énergétique, mais surtout de diminution du coût, là, tout de suite, les gens sont prêts à être un peu plus prêts à mettre la main dans la poche pour investir sur ce genre de solutions.
C'est très clair. En quelques mots, la PAV, Céline Granou. Alors, tout le monde connaît la PAV, créée en 1867 à Mulhouse.
Oui, exactement. Voilà.
Parlez-nous un petit peu
un groupe
de la PAV. Alors, le groupe a une fonction bien déterminée.
Oui, c'est un groupe international de 18 000 personnes aujourd'hui qui spécialise dans la maîtrise des risques techniques, humains, numériques, environnementaux. Et dont une partie principale est vraiment tout ce qui est organisation, veille réglementaire, contrôle réglementaire, et une partie bâtiment, qui représente à peu près 20% du groupe. Et c'est une partie dont on connaît plus, APAV comme bureau de contrôle, APAV Infrastructure et Construction France, qui travaille à la fois dans la construction, rénovation et l'infrastructure.
Donc vous intervenez en amont, en aval ?
On intervient à tous les stades.
À tous les stades.
À tous les stades, que ce soit de la programmation à la livraison. D'accord. À l'exploitation d'un bâtiment. Et pour ma partie, donc tout ce qui est vraiment stratégie, conseil, en labels et certifications, obtention des labels et certifications environnementaux.
Mais vous restez un bureau de contrôle ?
On reste un bureau de contrôle avec une composante et une équipe d'ingénieurs en assistance technique environnementale, en bien AMO. On assiste les maîtres d'ouvrage.
C'est vraiment de l'AMO, absolument.
Voilà, de l'AMO. Oui. Donc on assiste les maîtres d'ouvrage, privés ou publics, dans le résidentiel ou dans le tertiaire.
Et ça reste de l'AMO technique, on est d'accord.
Voilà, de l'AMO technique, oui. Label et certification. D'accord. De l'AMO technique environnementale, en l'occurrence, sur la partie qui nous intéresse.
Ils doivent avoir des têtes bien faites, vos ingénieurs. Parce que pour encaisser la volumétrie de la législation, c'est juste.
Voilà, il y a effectivement.
Avec les modifications réglementaires régulières, forcément.
Exactement, c'est un des grands défis aujourd'hui, cette bien complexité des exigences réglementaires normatives pour appliquer vraiment tout ce qui va être les défis des promoteurs et des maîtres d'ouvrage aujourd'hui, de respecter les critères ESG, l'influence de la taxonomie européenne.
Absolument.
Et la déclinaison en fait dans notre quotidien.
Je ne suis pas sûr que les Français, Karine, aient bien interprété, les professionnels, ce qu'est le rôle important de la taxonomie, qui définit finalement les règles, en quelque sorte.
Oui, effectivement, la taxonomie, ou la taxonomie, puisque c'est le nom européen, n'est pas compris de tous, tout simplement parce que déjà toutes les entreprises n'y sont pas soumises. Il faut avoir un certain, c'est plus de 500 salariés et plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas, n'ont pas l'obligation en tout cas de déclarer leurs activités vertes par des rapports extra-financiers. Et pour ceux qui le sont, ils ont quand même une connaissance, mais ça n'empêche qu'il faut leur apporter de la pédagogie quand on travaille avec, que ce soit des grands groupes, bailleurs, promoteurs ou autres. Il y a quand même de la pédagogie d'abord parce que les indicateurs clés qui permettent de dire qu'on est taxonomie ou taxonomie compatible, il n'y a pas tellement de REX encore là-dessus. Et parfois, les textes sont encore interprétables, on va dire.
D'accord.
Voilà. Et puis après, pour les autres entreprises, on était hier avec Justine, clairement, quand elle va travailler avec les institutionnels, les collectivités, il y en a pour lesquels la taxonomie, c'est complètement abstrait. On avait un rendez-vous la semaine dernière, mes équipes avaient un rendez-vous avec l'ISH.
Sans compter la résistance qu'on peut avoir en disant encore un truc européen, encore une norme qui s'ajoute à une norme.
Et puis, il faut vulgariser les termes, parce que finalement, la taxonomie, pour être taxonomie compatible, à l'exception de deux ou trois exigences nouvelles qui permettent de traiter les aléas climatiques, la résilience des bâtiments, la mutabilité des bâtiments. On connaît le sujet aujourd'hui du tertiaire et des bâtiments qui sont vacants et la nécessité de les transformer, hein, de rediriger leur destination, notamment sur du logement. Le reste des indicateurs de taxinomie sont déjà des indicateurs connus. On parle de performance énergétique, on parle de gestion de la pollution, des déchets, de l'eau. Donc c'est des choses qui sont déjà acquises dans les projets. Mes équipes avaient un rendez-vous, je disais, la semaine dernière avec l'USH, qui se fait accompagner par le cabinet Bartel, et qui souhaite fournir un guide, justement, pour informer les adhérents et leur expliquer ce que c'est que la taxinomie, de quoi on parle, et puis faire quelque chose de pédagogique pour pas que ce soit vu comme quelque chose d'insurmontable.
Alors, toute classe d'actifs confondue d'ailleurs, puisque le principe de taxinomie ou de taxonomie s'applique à toutes les classes d'actifs, pour le rappeler, bien évidemment, vous avez une spécialité. Moi, j'aime beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'en fait, vous dites, voilà, il y a juste pas photo, on le fait, point. Dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous l'avez intégré comme une méthodologie, comme une règle de fonctionnement, et je trouve ça extrêmement intéressant de l'avoir intégré dans le paysage, ce qui n'était pas simple, notamment avec la mortalité en France, où on est un peu comme ça, résistant à la norme. David Chouraki, une réaction sur ce que vous avez entendu. Alors vous avez un parcours à la fois sur les actifs résidentiels, vous avez dirigé des groupes, des agences immobilières, vous faites de la gestion, de l'administration de biens, du syndic de copropriété. Est-ce que ça vous parle quand vous voyez justement cette dimension? On se dit finalement, de toute façon, tous les actifs, les actifs en reconversion seront de toute façon certifiés, il n'y a juste pas poteau.
Oui, chez Crédit Agricole, effectivement, on est à la fois property manager, on est aujourd'hui leader en France, on gère 11 000 actifs, on gère 18 millions de mètres carrés dans toutes les classes d'actifs,
c'est-à-dire
résidentiel, tertiaire, commerce, logistique. On est promoteur et puis, en effet, les 500 agences immobilières du groupe Crédit Agricole, Square Habitat. Le regard que j'ai sur le débat qu'on a sur la certification, c'est que, évidemment, on va y aller de façon obligatoire parce qu'il y a une réglementation. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir pourquoi on y va. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans la certification, c'est que ça sanctionne un projet de transformation, un projet d'amélioration. C'est, pour moi, la partie immergée de l'iceberg. C'est une certification qui dit quel est le projet qu'on a de valorisation des actifs. Et nous, aujourd'hui, aux côtés de nos clients dans le property management, aux côtés des asset managers, eh bien, on travaille sur des certifications, mais sur le sens de ces certifications. Et ça a été dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut faire de ces mètres carrés? Comment on veut les transformer? Pour quelle utilité? Et j'allais dire que la réflexion des propriétaires, la réflexion des utilisateurs, c'est d'abord celle-là. Ça ne doit pas être la certification pour la certification, c'est la certification d'un projet particulier. Alors, on est tous dans une logique vertueuse, mais tous les utilisateurs, tous les propriétaires, ils ont d'abord, et ça a été dit tout à l'heure, une réflexion sur l'économie de la transformation de leurs actifs. Donc, la certification, pour moi, c'est vraiment la ligne bleue des Vosges, mais on doit être capable de dire ce qu'on veut aller chercher derrière la certification. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire avec vous, d'ailleurs, à la fois sur des projets neufs et puis sur de l'existant. Il y a énormément de transformations d'existant et la certification va venir sanctionner un projet, le contenu d'un projet vertueux de transformation d'actifs.
Je pense que c'est une vraie approche d'investisseur. Hein. On est d'accord. Partagez.
Oui,
vous voyez,
mais en même temps, alors, on a parlé de vulgarisation. Effectivement, c'est un challenge. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de lancer maintenant une offre qui s'appelle The Blue Suite, donc le bâtiment éco-responsable, où justement, on est en train de donner donc un outil qui permet donc aux clients de déchiffrer ça, parce que vous avez tellement de variations et combinations de solutions. Est-ce que je prends des pompes à chaleur? Est-ce que je prends des eaux usagées? Est-ce que je vais mettre des photovoltaïques? À quelle échelle? Combien? Etc. Et donc, nous, on a créé donc une offre avec trois niveaux, donc qui adresse effectivement donc la performance énergétique, la biodiversité et donc le CO2. Mais justement, ça permet aux clients de déchiffrer justement comment je trouve une solution par rapport à ça. Ça va quand même plus loin que les certifications, parce que les certifications, on peut en prendre plusieurs à plusieurs niveaux ou plusieurs éléments. Oui. Donc parfois, une certification, par exemple, BRIM Very Good, elle va avoir 20% sur la partie énergétique. D'accord. Comme il n'y a pas de réglementation sur cet aspect énergétique, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait on trouve qu'il faut aller plus loin.
Mais y a-t-il des processus de certification globale qui permettent, voilà, qui permettent avec le but de certification de compléter, d'avoir une vision à 360 degrés de l'actif?
Tout à fait, mais après c'est un choix du maître d'ouvrage. En fait, ouais. c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure, par exemple nos référentiels...
Un choix qui est fondé sur quoi?
Qui est fondé sur leurs ambitions.
On,
aujourd'hui, effectivement, la certification, certes, ça ne veut pas dire grand-chose. La certification, voilà. C'est l'assurance d'afficher de la transparence et la garantie que tel et tel objectif sont bien atteints.
Bien sûr.
Mais ces objectifs, okay. Ils sont décidés par le maître d'ouvrage. Donc, ce n'est pas le processus qui va faire que ça va être global, c'est ce qu'on va choisir d'en faire. Je vais prendre un exemple. Parce que ça regroupe un petit peu ça. On a certifié le plus haut bâtiment R+9 en plein Paris, c'est le projet Paul Bourget dans le 13e, porté par Elogisium, qui est un des principaux bailleurs d'Île-de-France.
Bailleur social.
Architecte, je crois que c'est Calte Architecte Urbanisme, entièrement en ossature bois. Ce projet a suivi.
Entièrement en ossature bois.
Entièrement en ossature bois.
Il a été livré là
on vient de le certifier. Ce projet, il a suivi une certification BE+, qui est un package dans nos référentiels, mais ils ont ajouté à ça le label BBCA, le label E+, c'est moins, puisque c'était un projet sous RT 2012, mais qui anticipait déjà la réglementation. Hein, ils sont largement en dessous de la RT 2012, moins 20. Il y a un label Habité Qualita. Excusez-moi, Habitat Qualité. Ils ont mis le projet.
C'est ça. C'est très, très bon.
C'est la journée qui a été compliquée. Le profil de la ville de Paris, qui est extrêmement exigeant, et le label bâtiment biosourcé. Donc, ils ont mis un peu tout ce qu'ils voulaient, mais c'est ça aussi. La certification,
ils ont surtout mis le paquet.
Oui, mais...
Il y a autant de certifications.
Mais c'est pas... En fait, la certification, c'est un processus par lequel on vient certifier des atteintes de performance énergétique, une mention biodiversité, parce que le maître d'ouvrage a décidé de pousser cet item.
Oui, mais ce n'est pas une usine à gaz qui fait que j'empile. Voilà.
Non,
parce que quand je l'entends,
non.
Un peu néophyte, je me dis, waouh.
Non, parce
même.
Que là, Sylvain, ouais. Clairement, ils ont choisi de faire ça avec un certificateur. Il se trouve que c'est nous et on en est bien, bien ravis. Mais ces mentions, en fait, on les a validées et vérifiées dans le même process de certification. C'est juste qu'au lieu d'évaluer 4 ou 5 items, on en a évalué
c'est clair.
Une cinquantaine.
Oui, je vous laisse réagir sur ce qui a été dit.
Oui, Céline. Tout à fait, exactement. C'est vrai que je vous vois surpris. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est la réalité quand même. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a, on a une jungle de labels et de certifications environnementaux.
On est d'accord, l'expérience, c'est ça.
Alors, c'est exactement cette impression-là. C'est-à-dire qu'il y a une jungle de labels et de certifications possibles, applicables. Qu'aujourd'hui, c'est un peu une course à l'échalote parfois, en fonction des villes, des sensibilités des villes, des chartes environnementales. On empile parce qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, et vous l'avez très bien à juste titre dit au début, on est dans une période plus compliquée. Aujourd'hui, on veut obtenir des permis de construire, rénover des bâtiments, on veut transformer les bâtiments, la ville sur la ville, fabriquer des... Et il y a une espèce de course là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous le disiez très justement, David... ou John, aujourd'hui, ça peut être une obligation pour se différencier. C'est aussi un gage de performance, Karine, comme tu le disais, un gage de performance, de garantie, de management de projet qui va permettre une performance énergétique, mais aussi un confort pour l'habitant et, bien sûr, une réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? C'est ça, parce que vous parliez de la taxinomie. La taxinomie, la déclinaison, c'est juste l'adaptation au changement climatique. Ouais. Les labels et certifs sont une des réponses, comme la biodiversité. Donc, on va là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'il y a
date
de très important.
Voilà. Merci.
Je voulais vous la faire
Il
très
fallait
court.
Que vous veniez pour me le dire.
Voilà.
Ça.
Et après, l'intérêt...
Non, voilà, quand c'est expliqué simplement, on comprend simplement. Ben, voilà.
David, je vous rejoins. Il n'y a pas de bon label ou de bonne certification. Il y a un projet avec des ambitions. Le projet se réalise, sorte de terre ou se rénove. Et c'est un accompagnement. Les labels et certifications sont un accompagnement, un plus. Et dans l'exploitation, c'est vraiment un gros plus. Parce qu'il faut savoir que c'est la règle des 80-20. le coût.
C'est ça.
On voulait pas vraiment parler de coût, mais le coût de la construction, c'est 20% par rapport aux 80% d'exploitation. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des certifications d'exploitation. Prestataire propose également des certifications d'exploitation et d'autres organismes, mais qui vont pouvoir maîtriser ce coût des consommations énergétiques. Vous parliez de pompes de chaleur, maîtriser ce coût des consommations énergétiques, maîtriser l'impact carbone, maîtriser le confort et maîtriser surtout les coûts d'exploitation des bâtiments. Aujourd'hui, la construction neuve est un peu en recul, ça va revenir bien sûr, mais on est plus sur de la rénovation, de la construction, de la mutabilité, de la transformation de bâtiments, des projets mixtes où on va mettre des hôtels, des logements, des bureaux, la ville sur la ville. Et juste pour rebondir, par rapport aux contraintes encore réglementaires qui nous entourent, comme le ZAN, le zéro artificialisation nette.
Une contrainte supplémentaire.
Une contrainte supplémentaire. Et aussi, par contre, on va essayer de se dire qu'on est quand même, avec toutes ces contraintes, on est quand même les meilleurs en France sur un sujet, la réglementation environnementale RE 2020. On est les premiers dans le monde, et il faut savoir.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est les premiers à évaluer nos bilans carbone. On est énormément regardé par le monde entier. On est vraiment regardé. C'est une réglementation environnementale qui a remplacé la RT 2012 et qui nous permet de travailler sur la performance énergétique. On le savait. Sur le confort, on le savait. Et sur compter nos émissions de kilos de CO2 dans l'atmosphère, notre évaluation de l'impact carbone. Et aujourd'hui, on est les seuls en France et les seuls dans le monde. Et on est énormément regardé sur ce sujet-là. Regarder nos kilos de CO2 qui sont émis.
Oui, voilà, John,
là-dessus. Oui, je vais juste rebondir. On est quand même aidé aussi par le fait qu'on a une énergie nucléaire. Et lorsqu'on fait les mêmes calculs avec nos confrères en Allemagne, le calcul CO2, ce n'est pas le même.
Donc, on
est quand même très aidé aussi par ce aspect-là.
Effectivement. Est-ce que ça correspond à la vision que vous avez, David, quand vous écoutez Céline? Parce que moi, quand je vous écoute, je me dis finalement, c'est bien l'APAV, prestataire, tiers de confiance. Ah, mais vraiment tiers de confiance.
Tiers de confiance.
Parce que là, je peux vous dire que moi, je suis asset manager, par exemple, ou PM. D'un point de vue académique, je n'entre pas dans le détail. Et je me dis, il est impératif, et c'est même une injonction de mes investisseurs, de choisir les meilleurs certificateurs et ceux qui, aujourd'hui, apparaissent comme des tiers de confiance. On est d'accord là-dessus?
Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup l'enthousiasme autour de cette table parce que c'est l'enthousiasme qu'on a dans les projets. Aujourd'hui, on a une volonté d'être très vertueux. Et qu'on l'a dit, c'est d'abord des projets à construire avec des simulations, comme ça a été dit, avec des chefs de projet qui poussent des idées pour s'améliorer. Mmh. Et puis la certification, eh bien, c'est là pour nous accompagner, pour certifier, pour garantir, pour nous donner de la sécurité dans le projet. Et ça donne de la sécurité aussi aux occupants, à ceux qui vont prendre à bail et qui ont ce label pour les sécuriser sur leur confort, pour les sécuriser sur ce qu'ils vont in fine payer. Donc moi, je veux dire à quel point la certification, c'est important pour l'ensemble de la profession, l'ensemble de la filière, et que c'est tous ensemble qu'on crée des bâtiments plus vertueux, mais qui économiquement aussi sont vertueux. C'est-à-dire que c'est très important. Nous, on le voit au quotidien avec les clients qu'on accompagne. Ce n'est pas la vertu pour la vertu, c'est la vertu dans le cadre d'un projet économiquement viable.
Oui, alors j'aimerais rebondir là-dessus. En tant qu'investisseur, utilisateur, de me dire, il faut vraiment que je comprenne que ça a un intérêt. Alors moi, je comprends que ça a un intérêt pour vous, John, parce que vous êtes contractant général, je comprends ça. Vous avez besoin de gagner des marchés, donc vous avez besoin de montrer patte blanche sur des appels à manifestation d'intérêt. Je comprends également que les élus locaux, eux, ont les injonctions de leurs électeurs et qui vont mettre dans les référentiels, effectivement, pour signer les autorisations d'urbanisme, des normes bien précises. Je le comprends. Encore une fois, si je vous disais, Céline, vous êtes le tiers de confiance, vous êtes d'accord? Vous présentez comme tel. Hein?
Oui, complètement.
On est d'accord. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez aucune chapelle, vous êtes absolument neutre, à la fois dans la structure de capital même qui détient la PAV, et vis-à-vis, donc ça veut dire que vous n'êtes ni promoteur, ni contractant en général, et vous ne le serez jamais.
Non.
On est d'accord là?
Jamais, on ne peut pas dire jamais. Mais c'est vraiment pas dans l'axe de...
Je ne vais pas m'engager
au nom du groupe APA.
Céline, je pousse un peu le trait volontairement.
Non, mais vous avez complètement raison. On est complètement à part. Voilà, on n'a pas d'enjeu, on n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt si ce n'est le conseil au mieux de nos clients.
Voilà, je parle avec David Chouraquier, qui est banquier, qui représente aujourd'hui une des premières banques d'Europe. Oui. Aujourd'hui, je me dis, voilà, les enjeux sont tels qu'à un moment donné, il faut être extrêmement clair. J'aimerais essayer de, voilà, juste pour celles et ceux qui nous écoutent, oui, c'est quoi le cheminement jusqu'à la valeur de l'asset? C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, OK, on a certifié quoi? Vous avez empilé les labels, label énergie, label biodiversité, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une vision à la fois globale et en quoi, comment, finalement, la valeur de l'actif va pouvoir croître ou du moins se conserver? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est, on est en plein dans la régénération urbaine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait un gâchis monumental de mètres carrés. D'accord. Je prends par exemple le projet Carrefour Next City qui aujourd'hui essaye de rendre à la nature les immenses parkings et de se dire finalement on a déjà une empreinte foncière et on va peut-être pouvoir faire du logement. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, et j'aimerais qu'on le mette aussi en analyse, c'est que ces zones périurbaines qui étaient des zones commerciales, aujourd'hui la ville les a rejoints. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est en ville. Donc est-ce que là pour le coup, la certification, les process de certification sont essentiels. On est d'accord, Karine,
oui,
sur ce sujet. Moi, j'aimerais avoir votre analyse. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair sur le truc, mais j'aimerais avoir votre point de vue à chacun. On va commencer par vous.
Ok, je vais essayer de reprendre ce que vous disiez. Aujourd'hui, l'intérêt d'un investisseur promoteur, c'est de s'assurer que son bien ne dévalue pas et qu'il a une valeur.
C'est exactement ça.
Et qu'il a, il a
une valeur, qui veut conserver sa valeur et accroître éventuellement sa valeur.
Accroître sa valeur et sécuriser, on parlait de l'aspect économique, mais sécuriser. Que ça soit en construction ou en rénovation ou en exploitation, il veut sécuriser son bilan financier aujourd'hui. Et aujourd'hui, les certifications ne sont pas systématiques là-dessus, mais elles permettent de sécuriser et d'être de rendre durable ce bâtiment, mais durable dans le sens économique et performantiel environnemental, et de sécuriser cette valeur verte. Aujourd'hui, deux exemples. Vous prenez deux biens de bureaux en Ile-de-France ou partout en France maintenant, entre un projet qui sera labellisé, BRIM, HQ, on entend beaucoup de ça, mais on a des labels aussi français tels que prestataire B2E, B2E+, sur du tertiaire, ou du HQE, ou du LEED, ou du BRIM, qui font la différence. Entre un bâtiment aujourd'hui de bureau, la réalité c'est qu'un bâtiment de bureau qui va se louer sans certif, oui, il y en a un qui a une certif et l'autre qui n'en a pas. Celui qui va se louer, c'est celui qui a une certification environnementale.
Ah ouais.
Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est un.
Non, mais ça
deux, voilà. Deux, pour vous donner un deuxième exemple.
Donc, c'est une vraie valeur.
C'est une vraie valeur et c'est prouvé par des chiffres qu'il y a une valeur verte ajoutée. D'accord. Et il y a surtout une valeur aussi pour l'exploitant, le propriétaire, qui permet de sécuriser ses coûts d'exploitation du bâti. Et je prends l'exemple d'un bailleur social. Qui aujourd'hui, sa seule préoccupation, c'est que ses locataires payent les charges. D'accord ? Payent ses charges. Donc en fait, la certification va permettre de travailler sur une réduction de la performance énergétique et donc une réduction des coûts énergétiques et donc une réduction des charges. Donc, vous voyez, en fonction, le promoteur, lui, va plutôt voir différemment parce qu'il ne va pas exploiter son bâtiment. Donc lui, il va tout mettre sur plutôt l'image, obtenir son permis, mettre la certification la plus adaptée. Est-ce que c'est la biodiversité? Est-ce que c'est le bas carbone? Est-ce que c'est ça les stratégies? Je suis dans telle ou telle ville. Est-ce que la sensibilité, c'est les espaces verts? Est-ce que c'est la performance énergétique? Il va choisir le bon label de construction ou de rénovation pour pouvoir obtenir son permis. Le bailleur, lui, va chercher à minimiser ses coûts d'exploitation. L'investisseur promoteur, la foncière, va aujourd'hui essayer de mettre en valeur son patrimoine en essayant de trouver la meilleure certification adaptée. Et voilà, ça, c'était la première réponse. Et la deuxième, oui, les certifications sont une réponse sur ce sujet. Mais on n'est pas obligé. Aujourd'hui, on peut faire de la qualité. Et c'est moi qui dis ça.
Oui, on est d'accord.
On peut faire de la qualité sans pour autant
mais
de certification.
Dit, vous avez répondu. La force de la certification, c'est le label par le tiers de confiance qui fait qu'entre deux marchés, celui qui est labellisé va le prendre et l'autre pas. Et donc là, c'est un acte à la fois de conservation de la valeur. Vous avez également parlé de croissance, de valeur verte. C'est un ratio extra-financier, mais c'est un ratio extra-financier qui est extrêmement lié à la valeur économique du bien. Votre avis, John?
Juste une chose aussi à se rajouter, c'est que lorsqu'on va faire la construction, si quelqu'un va faire un audit, ben on va faire un peu mieux, même si on le fait bien.
Mais oui, mais oui.
Donc il y a quand même aussi ce point-là.
Oui.
Oui. Alors, on est là, et en plus, pour vous, vous êtes hyper exposé, parce que comme c'est vous, vous êtes contractant en général, forcément, j'allais dire, 100% de vos opérations sont labellisées.
Non, 70%.
Non, mais quand je dis 100%, ce que je veux dire, c'est que 70%, mais Le reste, pourquoi il n'est pas labellisé?
Parce que je disais.
Parce que les utilisateurs n'y voient pas forcément.
Voilà, c'est des PME ou c'est des.
Ils n'y voient pas forcément l'intérêt réel.
Utilisateur.
Force, si on devait comparer là, aujourd'hui, le taux de certification par rapport à il y a 10, 15 ou 20 ans, on se rend compte, même si certains labels n'existaient pas, on se rend compte que la tendance, de toute façon, ces fameux 30%, se réduiront de façon irréversiblement dans le temps, puisque la transformation urbaine touche l'ensemble des détenteurs aujourd'hui, des investisseurs.
Aujourd'hui, ce que nous, on constate, c'est qu'en fait, on est sur les 70%, c'est maintenant depuis 4-5 ans.
Oui. C'est un plateau.
On est à plateau, quelque part, puisque après, bon, comme je disais, les autres, c'est des PME ou des utilisateurs en direct. Donc, est-ce que ça va bouger à 80 ou 90? Je ne sais pas. Je pense qu'on est autour de ce plateau.
Mais ça pourrait peut-être augmenter par la volonté à la fois des maires et des réglementations environnementales, qui fait que même un particulier ne pourra plus construire, ne serait-ce que pour lui, son imprimerie ou son entrepôt logistique, sans entrer par les fourches codines d'une certification. Parce que finalement, on se rend compte que non seulement c'est nécessaire, que tout le monde le fait, quasi tout le monde, mais en fait, ce n'est pas obligatoire.
Non, ce n'est pas obligatoire.
Mais non, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe, hein ?
C'est pas obligatoire, mais...
Tout le monde le fait.
Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais d'abord, il y a une nécessité... écologique, on sait aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir des bâtiments performants. Et puis quand même, il y a tout un tas de mesures et de dispositifs, des aides incitatives qui sont mises en place et qui sont des moteurs indispensables. Les financeurs privés ont un rôle aussi essentiel. Aujourd'hui, enfin, nous, en tant que certificateurs, ce qu'on peut constater... Il y a une évolution, hein, évidemment, mais il y a 10 ans de ça, on certifiait uniquement et surtout des projets pour des bailleurs, parce qu'il y avait à la clé des aides telles que l'exonération de TFPB de 5 ans supplémentaires, la possibilité pour les bailleurs de majorer leur loyer moyennant l'atteinte de différents critères décidés par les délégataires à la pierre. Et puis, depuis les 5 dernières années, il y a d'autres motivations avec la CSRD, avec la taxonomie européenne, avec la compétitivité des actifs, les problématiques qu'ont les promoteurs aussi à vendre. Parce que, Céline, tout à l'heure, tu disais, les promoteurs... Effectivement, vous regardez plutôt à obtenir leur PC, etc. Mais pas seulement, parce que ce qu'on a constaté sur les 2 dernières années, c'est que les promoteurs n'arrivent pas à vendre tout leur lot. Et que même s'ils ne l'avaient pas prévu au départ, in fine, ils se retrouvent à trouver comme acquéreur le bailleur. Et le bailleur, lui, il a besoin de sa certification parce qu'il va équilibrer son opération financière et il va aller chercher des aides. Donc, la certification, c'est tout le monde le fait parce que il y a des dispositifs et des aides incitatives.
David Chouaki.
Pour moi, la certification, c'est au cœur de 3 enjeux. Un enjeu environnemental, un enjeu économique, un enjeu social. Environnemental, parce que de toute façon, on est désormais contraint sur un certain nombre d'objectifs. Hein, le décret tertiaire, par exemple, mais il n'y a pas que. Mais on est de toute façon dans cette course-là, dans une course vertueuse, et il va falloir y répondre. Un enjeu économique, on l'a dit, dans les montages des projets, la certification permet d'aller chercher un certain nombre de subventions, mais permet aussi de réfléchir à la construction du projet, d'aller au fond de la modélisation de l'espace qu'on va travailler, que ce soit sur du neuf ou que ce soit sur de l'existant. Et puis, c'est social, parce que on l'a peut-être pas assez dit autour de la table, mais c'est l'image d'une entreprise. Aujourd'hui, une grande marque qui se réinstalle dans des bureaux, qui fait construire son siège social, évidemment, elle va réfléchir à l'empreinte qu'elle va laisser, et socialement, elle va avoir besoin d'être vertueuse. Donc, on a 3 enjeux environnemental, économique, social, pour lequel la certification est clairement une clé de voûte.
C'est exactement la définition du développement durable et environnemental, économique et sociétal qui permet du coup d'atteindre les objectifs qui se fixent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé assez du confort. On est tous sortis post-Covid de cette partie où on a besoin de lieux de convivialité.
Confort dans l'habitat, confort au travail, réinviter effectivement aussi la nature, les travaux sur l'air intérieur, par exemple, sont absolument incroyables.
Aujourd'hui, l'ADEME a lancé une démarche écrin sur la qualité de l'air au niveau national.
Moi, ça m'a beaucoup surpris, parce qu'en fait, on a enfin compris que l'immeuble peut être aussi une arme par destination et être délétère. Et c'est vrai qu'il y a un facteur lié à la qualité de la santé publique. Et il y a des études très, très claires qui le démontrent. Vous avez raison, David Chouraki, quand vous parlez que les sièges sociaux aujourd'hui, les entreprises réfléchissent effectivement à l'articulation du bien-être. C'est une réalité. On parlerait comme ça des heures entières, mais il va falloir quand même nous quitter. Voilà. Mais c'est intéressant. Vous savez, la frustration est le meilleur ami de la radio, parce que ça donne envie de revenir. Voilà. Alors, je suppose que vous avez envie de revenir. Vous ne direz pas non en même temps. Voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Un immense merci à John Baltet. Merci d'avoir donné votre vision de Contractant Général. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations au www.gsgroupattaché.com. Je vais demander d'ailleurs à nos techniciens de mettre l'URL sur le site internet. Et un immense merci à Céline Granoux. Voilà, je vais reprendre la carte de visite et je vais lire. Voilà, responsable développement national éco-construction, assistance commerciale et technique à l'obtention des labels et certifications environnementales. Non, mais ça mérite d'être
tiers
clair.
Tiers de confiance sur les labels et certifications.
Voilà, ça mérite d'être clair. La PAV, c'est hyper connu. Vous tapez sur Internet, vous avez sur un moteur de recherche et vous trouvez toutes les informations. Un immense merci à Karine Thomas, directrice générale de Prestataire Certification, idem, hein, avec le site internet qui est sur le podcast, où vous avez toutes les informations. Aujourd'hui, le certificateur, il n'y a juste pas photo, il faut absolument l'avoir, puisque c'est, encore une fois, je répète, le tiers de confiance dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, un immense merci à notre ami David Chouraki, directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier. Moi, ce qui m'épate chez vous, David, c'est que vous avez une maîtrise de l'environnement qui est absolument phénoménale, toutes classes d'actifs confondues, puisque vous êtes beaucoup sur des classes d'actifs aujourd'hui résidentielles, mais vous maîtrisez particulièrement les autres, et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et merci, je sais que vous aviez un agenda contraint, d'avoir pris le temps de passer sur ce sujet. Voilà, il est quasiment 11h à suivre. On va rencontrer des promoteurs, des aménageurs, mais aussi des assets et des investisseurs, puisqu'on va voir tout à l'heure le président de PIMCO. PIMCO, vous savez, c'est Alliance Real Estate Monde, qui sera sur le plateau pour parler d'immobilier. Voilà, on se retrouve dans quelques instants.
MIPIM 2025, en partenariat avec Prestataire sur Radio Immo.